création on air. On air. On air. Creation on air. Bonsoir. C'est un passage, non loin de la place Clichy, un lieu où vibrer, en compagnie de pianos qui, depuis 1912, ont pris possession des lieux. Ils arrivent, parfois endormis, et quelqu'un les réveille avec une aiguille. Ils sont parfois abîmés, et quelqu'un va les restaurer. Ils ont leur caractère trop doux ou renfrogné. Une couche en moins, et quelqu'un va les révéler. Steinway, Pleyel, Gaveau, voisine avec Schimmel ou Yamaha. Il y a, sur la place Clichy, une statue, une pharmacie européenne, ouverte jour et nuit. Il y a une jeune fille qui s'appelle Lily et rêve. Création On Air, Les Pianos Nebout, par Laurence Courtois, Zoé Mémy, Annabelle Brouard.
C'est quoi déjà ? Place de Clichy. Je regarde le monument pour la défense de Paris. Il semble nous saluer. La mi, la mi ré mi do. J'ai envie de me remettre au piano. J'entre dans ce passage en suivant un petit panneau. Les pianos Nebout.
Un documentaire de Zoé Mémy et Laurence Courtois.
Bonjour. Bonjour madame. Je cherche à acheter un piano.
Bonne idée.
Quelqu'un s'approche. Petit brin de femme.
Est-ce que vous pourriez
allure espiègle. Coupe au carré.
Vos pianos, je cherche un piano plutôt d'occasion, d'accord. Un piano droit.
Ça, vous ayez un élan vers le piano que vous allez. Je vous emmène.
On peut passer par là, allez-y.
Deux hommes discutent dans la pièce à côté. Bureau tapissé à l'anglaise, porte revêtue de cuir, parquet ancien. Tiens, on a enlevé le clavier de ce piano.
Ça vous donne déjà dans les bases.
Oui, je l'aime beaucoup. Comment je pourrais choisir mon piano ?
Eh bien, en vous asseyant à ma place et puis en jouant déjà ce qui vous reste un petit peu. Il faut que vous puissiez ressentir, vous, le retour du son de ce piano pour être bien avec. Alors, allez-y.
Oui. Alors, je vais aller faire
oui,
la même là-bas.
La même chose. Voilà, tout à fait. Vous voyez, c'est très différent, les deux.
Oui. Faire ce visage, quoi.
Voilà, bon, allez, ça se discute pas. C'est vous qui serez tous les jours, enfin j'espère, devant ce piano. Faut quand même que le petit piano que vous allez reprendre pour vous y remettre vous apporte du plaisir quand vous le jouez. C'est intéressant de pouvoir justement les jouer et puis les comparer. Et puis, c'est un ami, un piano. Ouais,
bien beau, ça pourrait être quelque chose
qui ferait un bon mixte parce qu'il n'est pas trop haut, il n'est pas trop grand, mais il a une sonorité intéressante. C'est pas mal.
Il va me donner confiance ?
Ah oui, complètement. Puis après, vous pouvez déjà vraiment travailler l'interprétation, vous faire plaisir et après vous dire, bon, ça y est, j'ai bien progressé. Je vais en prendre un plus grand ou un petit piano à queue, un petit quart de queue. Après, on passe dans les Bosen, les Steinway, les Steingraber, hein, qui sont des pianos magnifiques. Puis quand même, les petits Pleyel anciens, que j'adore. Et puis, là, je sais pas. passé, il avait fini de préparer, mais...
Vous voyez, là, les aigus,
les faux, mais bon.
C'est plus impressionniste, on va dire.
C'était de la très très belle facture et c'est des pianos. Maintenant, ceux-là, on ne peut pas les retrouver parce que les bois de la table d'harmonie, ces bois-là, c'est plus choisi ni séché de la même façon que tous les pianos contemporains. Enfin, je suis fan, moi. Mon père était finisseur des pianos à queue chez Pleyel et je sais très bien la façon dont étaient choisis les bois pour les tables d'harmonie. Ils faisaient sonner les arbres. C'est impressionnant, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire sonner un arbre? Du coup, on a essayé au ski, nous. Vous choisissez un sapin, un épicéa, vous prenez un gros... On avait pris une grosse pierre, hein. Vous frappez l'arbre, tout méchamment, où il n'y a rien, et celui qui transmettait le plus le bruit d'impact était choisi par Pleyel, et les luthiers étaient les premiers à entrer dans les très belles coupes de bois. Et ils choisissaient celui qui transmettait le plus le bruit d'impact. Tac, le saut Pleyel dessus, tac, on coupait l'arbre, tac, on faisait des tranches, et il y avait 30 à 40 ans de séchage naturel, et après on faisait une table d'harmonie. C'est fini, hein, on ne va plus faire sonner un arbre. Il y a une petite période de séchage naturel, mais c'est plus 30 à 40 ans. Donc ça donne un autre monde sonore. Alors par contre, bon, c'est des petits grands-pères, hein, il faut les refaire. Hein.
Donc là, il y a des pianistes qui viennent.
Voilà. Et la plupart maintenant des jeunes pianistes et autres découvrent ces pianos-là. Parce qu'il y en a de moins en moins, hein, il faut les refaire. C'est des sons qu'ils ne connaissent pas et il y en a qui sont vraiment surpris. Mais c'est des pianos qui méritent ces restaurations qui sont très longues et coûteuses. Parce que c'est des heures et des heures et des heures de boulot. Hein.
Passer la journée, on n'arrivera pas à quelque chose de parfait de toute façon. Le timbre est toujours différent, mais le son est un peu plus droit. Essayez d'aller jouer sur la texture du feutre maintenant. C'est un piano magnifique, c'est un de mes préférés. On est dans des sonorités qui sont chaudes, qui sont très musicales. On a beaucoup d'harmoniques qui se dégagent de ce piano. Je le trouve très doux, très, très agréable à jouer, vraiment. C'est un des modèles phares de chez Pleyel, dans une période dans laquelle ils étaient, sans aucun conteste possible, les meilleurs du monde. Donc c'est vraiment une qualité de fabrication hors norme. C'est un piano qui va avoir une centaine d'années. Forcément, les dégâts du temps ont dû se voir pas mal.
Vous aviez tout un passage d'artisans, vous aviez des ébénistes, vous aviez pareil, décorateurs, feuilles d'or aussi, il y en a un qui faisait ça, et puis l'atelier de mon père au début était là.
Elle me raconte aussi les tapissiers, les ébénistes, les ateliers de tissus, la bande à bonneaux, les artistes fauchés, le marchand de peinture, et le terrain vague où on pouvait venir jouer aux boules le soir. Les artisans du passage sont partis un à un et aujourd'hui, il ne reste que les ateliers de piano.
J'aime bien celui-là là-bas.
Ah, bah, voyez, vous avez trouvé un petit piano blanc.
Donc là, c'est encore autre chose. Je vous montre. Mais...
pianos dans 60 mètres carrés, de grands pianos de concert, des pianos droits pas chers, tapisserie à fleurs, décor peint.
Madame ?
Oui, en fait, je m'appelle Betsy Schlesinger et je travaille depuis longtemps à l'école Koenig American Conservatory. En fait, je suis tombée dans une piège magique. Pour l'instant, je découvre l'endroit. J'ai jamais vu ça.
Souvent, les personnes qui arrivent dans le passage sont surprises parce que déjà, on arrive dans un atelier, il y en a de moins en moins. On en découvre donc c'est déjà un monde particulier. Puis après, il y a plein autour, toutes ces salles d'exposition. Puis vous êtes allé voir les Steingraber en bas?
Oui, absolument.
C'est magique.
C'est magique. J'ai jamais vu ces pianos. C'est magique. Bien. Pour une Américaine à Paris de tomber dans cette histoire, une bonne histoire comme ça. C'est très, très émouvant.
Il avait signé celui-ci.
Des beaux pianos, j'en ai quand même vu beaucoup, hein. Et des pianos magiques, parce qu'il y a ça aussi, hein, quand vous êtes dans le top du bois, hein, le top de l'assemblage du bois, et puis avec fait par une main magique, parce qu'il y a aussi l'homme qui est là derrière, des fois il y a des bêtes qui sont... On se dit, celui-là, mais qu'est-ce qu'il a? C'est pas possible. Donc, en souvenir de très 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 beaux, comme ça, un peu exceptionnels, j'avais peut-être 5. J'ai eu la chance de mettre mes mains sur un nombre de pianos... Les pianos, mon père, lui, n'a jamais vendu un piano de sa vie. C'était le restaurateur, le facteur, il adorait ses pianos. Sa vie, c'était son établi, son atelier et ses pianos. Mais moi, je n'étais pas manuel attirée par le métier du piano. C'était plus le piano en lui-même. Donc après, j'étais la petite testeuse. Non, là, ça ne va pas.
Hein. Vous n'avez jamais voulu être concertiste?
Non. Non, non, ça c'était... J'avais pas l'envie de cette vie. Ma preuve voulait, il y a du temps que je rentre dans ce monde, non. Voilà. C'est un monde particulier quand même, hein. Et puis c'est une vie particulière, hein. Donc moi j'avais pas envie d'aller à travers le monde, la course à l'ego, parce qu'à l'époque c'était chaud, hein. J'ai pris des cours avec Magda Tagliaferro. Sa concurrente, c'était Marguerite Long. Elles étaient là toutes. C'était la guerre. C'était terrible. Non, mais moi, je voulais me marier. Hein. On s'est connus très tôt avec mon mari. Aller courir le monde, j'avais autre chose à faire. C'était des enfants pour continuer à transmettre. Même. Et après, quand mon mari est arrivé, c'était pas son... Je l'ai détourné. Et donc, papa lui a appris le métier. Et il était un peu inquiet parce qu'apprendre commencer à apprendre le métier à 20 ans, c'était un challenge. Mais bon, il aimait ça, il était manuel et voilà, ça s'est fait comme ça. Quelque part, après, c'est un petit peu un luxe de pouvoir transmettre tout ce que mon père a appris chez Pleyel.
Système à bascule, vernis, réchaud, pinceau, clavier, bout de touche, craie, pont de piano droit, liquide de refroidissement, durcisseur, raviveur, diluant.
Ça, c'est les clés, tu les ramènes, celle-là.
Oui,
c'est le double.
C'est promis.
Fil de fer, molleton, chute, peau, fer à vapeur, drap tissé, tablier, cordelette, lampe à UV, pince à mortaise, corde filet, tourne à gauche, attrape, tome pousse. Claire, presse, parchemin, vernis, réchaud, emporte-pièce, clavier, carabule, bout de touche, clé à molette, merisier, orange, rouge, tourne à gauche, acajou, noyer, système à bascule, vernis, rouge balancier, pointe à sifflet, ressort, marteau.
Là, je vais les réveiller un peu avec des aiguilles. Une zone qui lui permet d'être élastique en fait, parce que c'est là, c'est vraiment une boule inerte, et là ça lui permet, ça aère une zone de manière à le rendre rebondissant et donc à donner en fait plus d'énergie au corps d'après. C'est un peu familial au départ, le piano c'est dans les cordes de la famille, puis là, c'est vrai qu'après moi j'aime bien le travail du bois, des matériaux, et là on travaille plein de choses à la fois. On travaille le son, on travaille le toucher, on travaille la texture des choses. Entre le feutre, le bois, l'acier, il y a plein d'éléments qui doivent travailler ensemble, c'est ça qui est intéressant. Quoi. On tourne des chevilles plantées dans du bois pour accorder une corde en acier qui est posée sur des morceaux de feutre, et frappée par un morceau de feutre qui est collé sur du bois, qui est guidé par un axe en métal qui est dans des garnitures en feutre. Ce travail-là, c'est pas l'inspiration divine. Non, il y a des règles, il y a un fonctionnement. On sait que structurellement, dans la façon dont c'est fabriqué, un marteau, donc si quand j'écoute mon piano qu'il est brut, je m'aperçois qu'il chante d'une certaine façon, qu'il est très très dur, très percussif, ou au contraire très renfermé, très trop doux. Ben en fait, je vais utiliser des techniques un peu différentes. Le but, c'est d'avoir une multiplicité de techniques un peu dans son sac. Plein de cordes à son arc, en fait. Il y a des fois, on n'obtient pas ce qu'on veut. Là, ça va aller. Là. Ça s'appelle l'intonation, mais plus globalement, ça s'appelle l'harmonisation. On est dans l'homogénéisation du timbre des pianos. Là, je vais préparer ce son. Voilà. Il y a toujours plein de défauts dans les pianos. Plein de défauts dans les cordes, dans les marteaux, dans le technicien. Donc il faut organiser tout ça et se débrouiller pour avoir quelque chose d'harmonieux, de lisser un peu les défauts, en faire ressortir les plus belles choses. Je retire une légère couche. Et quand ça fait ce bruit-là, c'est bon signe. Développe vraiment la voix en fait du piano, ce qui sera à la fin la sonorité du piano. Si on fait pas ça, on s'arrête à 80% peut-être du potentiel. C'est la finition là. C'est pas le cas. Voilà, la corde. C'est moi qui décide en fait là. Enfin, c'est le piano qui parle, mais c'est moi qui lui imprime un petit peu ce qui sera à la fin. D'un piano à l'autre, ça change. On peut pas copier-coller sans arrêt quoi. Et je pense qu'on a quand même une esthétique sonore un peu globale ici. Et les gens qui viennent même acheter des pianos modernes, type Yamaha, etc., en général ont l'impression qu'ici c'est pas pareil. Parce qu'on a peut-être cette culture là en fait, des pianos anciens qui sont un peu plus romantiques, plus doux, et donc on les prépare aussi de manière plus douce.
Choisir. Celui-ci, il est trop long. Celui-ci, il est trop haut, c'est sûr.
Celui-ci, il est trop massif. Oh, je sais pas.
Qu'est-ce que tu racontes, Chimel ?
Comment choisir un piano ? Okay. Trouver l'élan, les touches, l'émotion.
Tu m'intimides.
Trouver la musique.
Non, je sais plus. D'ailleurs, faut que j'appelle le prof.
Le premier piano que j'ai vendu, c'était le piano de ma maman. Je lui ai piqué pour le vendre. C'était il y a 48 ans. Mon beau-père était axé essentiellement sur son atelier. Autant c'était un artisan de haut niveau, hein, puisque c'était un personnage important de l'usine Pleyel. Les aristos de l'usine, un petit peu. Donc j'ai eu la chance d'apprendre avec un monsieur comme ça. Mais alors, au niveau commercial, c'était franchement pas son truc. Parce que lui, il a fait des choses incroyables. Hein. Retour de guerre, son atelier disparu, ses outils empilés dans une cave, des tas de rouilles partout. Et il dormait dans son atelier parce qu'il avait guère d'autres endroits, reconstitué un semblant d'outillage. Et il a commencé à relancer l'atelier. Et 20 ans après, ben, me voilà arrivé dans son atelier. Et l'histoire continue. Ben, je ne savais pas que je vivrais ma vie professionnelle autour de cet instrument magnifique et dans la musique. Alors, imaginez, quand j'ai parlé de Yamaha, un piano japonais, à mon beau-père, il faisait des bonds de 15 mètres. Hein. Il était vraiment archi-contre. C'était pour lui une hérésie, ça. C'était pas concevable. Et puis, on s'est engueulé. J'ai quand même fait ce que j'avais décidé de faire. Et puis quand le piano est arrivé, il a voulu à tout prix se rendre compte. Il a commencé à déshabiller le piano. Et puis bah, il s'est rendu compte qu'après tout, mince, alors c'était pas si mal que ça. Hein. Et c'était pas le niveau actuel. Il a changé d'avis. Donc vous voyez le choc culturel que ça a été pour lui. Tout comme a été aussi... un jour, je lui ai dit, tiens, j'ai un coup de fil de monsieur Intel, il veut vendre son Steinway. Mais il m'a dit, mais t'es fou, tu vas jamais vendre un... On va le réparer, mais jamais tu vas vendre un piano dans notre petit passage, là. Ben, je l'ai acheté quand même. Ça a duré un an, hein, pour le restaurer, ce piano. Puis on l'a vendu. Voilà, on a vendu le Steinway. Puis après, l'atelier s'est agrandi. Et puis, au fil du temps... dans le passage, on a pu acquérir d'autres locaux qui nous ont permis d'être la base du développement actuel. C'est des relations pérennes, un piano. Hein. On le suit dans sa vie, on suit nos clients, même à travers leur famille, même après les générations suivantes. Hein. C'est des histoires qui peuvent se passer sur deux ou trois générations, hein, même. On est un peu comme ce qu'était le médecin de famille auparavant. On rentre dans l'intimité des gens avec le piano. C'est pas juste des dossiers ou juste un piano anonyme. Et pour tout vous dire, je sais à peu près où sont tous nos pianos d'exception. Je me rappelle de chaque piano et de l'endroit où ils sont partis. Mon bonheur, c'est d'anticiper, c'est-à-dire de découvrir, avoir l'idée de ce que ça va donner une fois terminé. J'ai reçu un jour un coup de fil d'un monsieur qui me parlait d'un piano qui a appartenu à monsieur Gabriel Fauré. Et il aimerait bien que je vienne l'expertiser au château d'Arnouville. Et je suis tombé sur une épave totale. Un piano des rares de la fin du 19e siècle, franchement dans un état très très inquiétant. C'est que pendant la guerre, ce piano, le château a été réquisitionné et les propriétaires, à l'époque, ont fait une fixation sur le piano, n'ont pas voulu qu'on s'en serve et l'ont sorti du salon du château pour le planquer dans un hangar près du poulailler. Là, il a quand même, pendant quelque temps, subi les outrages du climat, de l'endroit, beaucoup de poussière, le froid, le chaud, l'humidité. Ma réaction première a été de dire que, vu l'état du piano, je pouvais lui trouver la même chose beaucoup, beaucoup moins cher. Il m'a dit, monsieur Nebout, il n'en est pas question. C'est celui-là qu'on veut faire restaurer. Alors, à la réception du devis, ils ont quand même fait gloup. Et on m'a dit, on n'a pas les fonds, on va s'organiser, on va faire des concerts et tout. Et 2 ans après, j'ai reçu un appel, toujours de la même personne, qui me dit, bah écoutez, voilà, on a les fonds, vous venez chercher le piano. Et 8 mois après, vous imaginez un peu, oui, il a fallu 8 mois, avec plein de visites ici, ils venaient voir au fur et à mesure des travaux, ils étaient de plus en plus assez surpris de ce qu'on arrivait à faire en prenant notre temps. Et un jour, il y a eu l'inauguration du piano dans la chapelle du château. Quand ils s'installent au piano, leur piano retrouvé en l'occurrence, ils sont estomaqués. Hein. Et ça, ça se ressent très vite. Moi, les gens qui ont une émotion en jouant un piano, je le sens. Vous savez, les ondes sonores, elles vous percutent. Hein. Et les émotions d'un être humain à côté de vous, ben vous la ressentez aussi. C'est génial.
Maxime, qui c'est qui est en bas avec le plateau là?
C'est Max.
Il est où? Il est en train de le laver?
Ouais.
Ah, ça va alors.
Ah bah oui.
Alors,
il y a un torchon,
peut-être en mettre deux. Hein.
Tiens, t'as qu'à remettre du pain par-dessus. Ah oui, il en manque là. En bas, ouais.
On avait déjà fait des courses.
On va faire des crocs. Il restait plein de pain. Ce sera la première tournée, la deuxième, ce sera les autres qui le feront.
En général, un piano, on garde entre 4 et 6, ouais, 3, 4, 6 mois parfois. On n'est pas des gens pressés, on aime bien avoir un peu de temps devant nous. Je vais pas commencer à refaire l'intonation d'un piano avec ses marteaux tout neufs et tout. Si j'ai 10 minutes devant moi, et à la suite, je dois partir chez un client. Je vais attendre d'avoir une bonne journée, 2 jours disponibles pour ça. C'est comme dans les usines des pianos chers d'aujourd'hui. En fait, ce qu'on paye cher, c'est le temps d'attente dans une usine un peu plus standard, avec des prix beaucoup moins élevés. Voilà, on assemble et puis ça avance. Quoi. J'ai été plusieurs fois visiter les usines au Japon, chez Yamaha. Ça va vite. Et un piano droit chez Yamaha, je ne pourrais pas vous dire combien de temps, mais c'est incroyable. Quoi. C'est les temps modernes de Charlie Chaplin avec des robots, là. Et ça avance sur des tapis, il y a juste quelques opérateurs qui surveillent, mais ça met peut-être bien moins que 3 jours.
Je suis sortie de l'atelier prendre l'air. J'ai la tête qui tourne. Tous ces pianos, modestes ou merveilleux, ces voix passionnées, ces touches martelées. Je m'assieds sur un petit banc de pierre. Les pavés luisent de froid. Dans un bassin d'eau gelée, un papyrus résiste. Contre une rambarde, des vélos accrochés, des gens passent, une livraison. Et au loin, quelqu'un penché sur un clavier.
C'est quelque chose d'extrêmement précis. C'est ce que nous, on appelle des battements. Quand on accorde un piano, on se base sur ces battements, en fait. J'ai le l'oreille, on va dire, plutôt musicale. Je joue du piano, mais je n'ai pas l'oreille absolue. C'est-à-dire que quand on entend une note, on peut dire tout de suite, c'est un ré, un si, un la.
À composer un beau piano, hein.
Bah oui, bien sûr, ça.
Même si on a la musique en soi, voilà, ça peut déclencher des tas de choses. Et...
Vous êtes musicien ?
Bien sûr, je suis pianiste. Un beau piano bien préparé, bien harmonisé, c'est un compagnon, et surtout c'est un.
C'est le terme que j'emploie souvent.
Ouais.
Nous sommes
vous
que
êtes
des...
juste en dessous de la magie, quoi, peut-être.
Ouais. Ouais. Moi, je parle pas trop de magie. Je parle vraiment, le mot que je mets souvent en avant, c'est l'émotion.
Ça demande à être exploré, hein, ça, ouais, c'est très beau, j'adore.
Voilà, il a 104 ans, voilà. Hein, puisqu'il est de 1912.
Il m'a l'air polyvalent aussi, enfin, c'est l'impression qu'il me
oui,
donne.
Oui, complètement.
Ouais,
complètement.
On peut aller dans tous les styles.
Ouais, dans tous les styles, et alors c'est beau.
Je crois que c'est ma famille de piano, probablement.
C'est la nôtre aussi.
Ouais. Hein. Qu'est-ce qui est d'origine ? Qu'est-ce qui était
d'origine, l'origine, c'est le génie de Pleyel.
Si on change la table d'harmonie, c'est
et la table d'harmonie, le son, il est là, en fait. Nous, on est assez soucieux de préserver la sonorité d'un Pleyel, pas en faire un piano moderne, enfin actuel. Hein. Il doit être tel qu'il est né il y a 100 ans.
Pas moyen d'avoir un petit peu plus net. Où est-ce que sont les lames ? Ouais, ça j'aime bien.
Ça c'est la pâte.
Ça c'est carré. Ouais, okay. Passe un petit coup comme ça, puis l'alcool très léger. C'est juste pour enlever le gras du doigt, parce que sinon ça prend pas.
Ouais, ok, d'accord.
Souvent des éclats à cet endroit ?
Ah oui, c'est fréquent parce que c'est un endroit qui est apparent, c'est comme un coin de table en fait. J'ai un peu creusé, j'ai bien redessiné le tour. Quand je vais couler ensuite la couche supplémentaire de vernis et que je vais la poncer, quand ça va être arasé avec l'ancienne couche, on verra plus rien en fait. Je suis ici depuis à peu près, je dirais, 3 ans et demi. En fait, j'ai eu vraiment l'extrême chance d'être embauché directement. Je sortais tout juste d'une école d'art dans le dessin. Je voulais trouver un métier qui était dans le bois et en même temps dans la musique, parce que j'aime beaucoup ça, évidemment. Et je venais de reprendre à l'époque le piano depuis un an. Un jour, mon prof de piano m'a conduit ici, parce qu'il était déjà venu une fois. J'ai rencontré Quentin, mon chef d'atelier. Et là, on a discuté une bonne demi-heure, comme ça. J'avais les yeux qui brillaient. Je connaissais rien du tout. J'étais hyper timide, terrorisé. Mais
mais il a su prendre le temps de m'écouter. Et donc voilà, je fais 2 mois de stage chez Nebout ensuite. Et ce qui est super bien, c'est que je suis arrivé pile à un moment où on restaurait un piano droit, en fait. Mais on le restaurait en entier. Du coup, Quentin m'a mis dessus. Et il m'a appris tout de A à Z, en fait. Vraiment tout. Que ce soit de la marqueterie, du bois, de la structure harmonique, ponçage, redorure de cadre, déchevillage, désencordage, réencordage, bien sûr, rechevillage, etc. Donc, tout le gros du meuble. Et ensuite, tout ce qui est, bien sûr, réglage, harmonisation. Quand on est débutant, c'est pas évident. C'était génial, parce que j'ai pu voir vraiment toutes les étapes du piano de A à Z. Et à la fin de ces 2 mois, tu peux monter, s'il te plaît? Alors là, un peu paniqué, parce que je savais pas trop pourquoi il m'appelait. Surtout en 2 mois, j'en ai fait des conneries, alors je me suis dit, bon, ça se trouve, c'en a encore une. Alors je monte les marches, puis je m'assois, il y a mon patron en face de moi, Quentin à droite. Puis Christophe me dit, écoute, voilà, avec Quentin, on a bien réfléchi. Soit tu peux intégrer l'école l'ITEM, qui se trouve au Mans, et suivre voilà l'alternance chez nous. Ou alors, on te propose de t'embaucher à plein temps et d'apprendre tout à plein temps. Alors là, j'ai pas hésité. J'ai fait à plein temps. Et aujourd'hui, je le regrette vraiment pas du tout.
Là, c'est bon pour toi.
Ouais, vas-y.
Ça a l'air d'être...
Vas-y. Là, t'inclines ton vernis, tu laisses la baguette dedans, tu regardes si ça fuit pas, et tu t'arrêtes pile poil au bord, quoi. Tu vois, faut pas que ça dépasse de ton scotch. Mais là, t'es bien. Là, pour moi, t'es nickel. Même au niveau teinte, regarde, tu compares un peu entre les deux.
Ouais.
Moi, on est pas trop mal.
Ouais, nickel.
Bon, qu'est-ce qu'ils disent, gars? Ils ont besoin d'attendre un peu. Ouais. Bah, tu vois, tu peux jouer un petit peu, et puis t'attends que ça sèche.
Comme on joue souvent les mêmes morceaux, ces morceaux-là deviennent des références pour nous. C'est assez agréable aussi d'être accordeur comme ça, parce qu'au bout d'un moment, quand on connaît vraiment bien l'accord, et donc on accorde déjà depuis un certain temps, ben on peut penser complètement à autre chose. Je commence à accorder, je fais la première partie de l'accord qui est là et un peu plus technique, donc là je pense vraiment qu'à mon accord, mais ensuite tout ce qui est octave ou unisson, c'est la suite de l'accord. Là, c'est tellement mécanique et automatique que le cerveau se dissocie légèrement, c'est-à-dire que mon imagination part.
Paul, Jacques, Christophe, Quentin, Vincent, Maxime, Antoine, Philippe, Pépite, Lucas, Hélène, Joseph, Myriam, Axel, Landine, Antoine, Marin, Benjamin.
Ici, à un moment, il n'y a même plus du tout d'apprentis ici, c'était au début des années 2000. Quand moi j'ai commencé à reprendre, en tout cas à m'impliquer beaucoup plus dans la vie de la société, s'est rapidement posé la question de l'avenir de l'atelier. Le nôtre était, comme tous ceux de nos confrères, en tout cas les derniers qui avaient survécu à la fin des années 90, c'était absolument pas rentable. Et je trouvais dommage que nous nous transformions uniquement en magasin de vente. En tout cas, moi, j'étais très attaché à cette vie d'atelier. Donc, on a réfléchi aux diverses solutions qui s'offraient à nous. Une des premières, c'était, basiquement, avant même de savoir si ça a un sens économique, c'est comment on fait pour préserver nos savoirs, donc les transmettre, donc reprendre la formation. De fil en aiguille, on a pu reprendre un apprenti, puis 2, et aujourd'hui, on est à 5 apprentis. Maintenant qu'on a une grande équipe, un atelier qui tourne, développer notre stock de piano acoustique, il était temps pour nous aussi d'aller là où est le marché. et de nous mettre à vendre des pianos numériques. Et il se trouve qu'un de nos confrères qui s'appelait les Pianos Âmes, qui était une très très grande maison, très prestigieuse, il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le plus grand magasin d'Europe. C'était, faut imaginer le printemps ou les galeries Lafayette, boulevard Haussmann, mais pareil rue de Rennes, avec sur plusieurs étages que des instruments de musique. Et on s'est rapprochés, tout simplement, on a fait une fusion, parce que justement, ils sont assez forts en piano numérique, donc c'était une jolie base de départ pour nous, et en plus, ils ont une culture des instruments acoustiques qui nous convenait bien, donc ça a été une alliance naturelle. Ce qui nous importe, c'est de défendre des pianos qui sont fabriqués par des facteurs qui ont encore la maîtrise de leur savoir-faire. Ce n'est pas un produit marketing, ce n'est pas juste un nom sur un cylindre, ça n'a pas de sens. Or, c'est ce qui se passe de plus en plus. Les vrais facteurs de piano, ceux qui ont leurs usines, ceux qui ont leur histoire et leur tradition. Et encore, ça n'a pas besoin d'être nécessairement ancien pour avoir un jeune facteur de talent qui se lance et qui fait un instrument absolument merveilleux. Mais ce qui nous importe, c'est cette culture du son, c'est ce caractère. Un Pleyel, ça a un son. Un Schimmel, ça a un son. Un Steinway, bien évidemment, ça a un son. Bösendorfer aussi. Steingraber, une marque pour laquelle on a aussi beaucoup d'affection, qui est une marque extrêmement artisanale et peu connue du grand public, mais aujourd'hui, c'est probablement la marque la plus artisanale au monde. Et on retrouve d'ailleurs l'ambiance de notre atelier quand on va là-bas, à Bayreuth, en plus grand, parce que c'est un petit peu plus grand, mais il y a ce même appétit du son et de la matière.
Celui-là, je ne sais plus. Jouez le SK3.
Ouais. On ne vient pas ici si on n'a pas envie de venir ici. C'est difficile d'échapper aux attractions familiales, quelque part. On a beau essayer de s'éloigner, on peut être rattrapé. Mais il faut que ce soit une envie, une vraie envie profonde. Je me mets pas la pression. Il n'y a pas de prédestination. En plus, je trouverais ça injuste. C'est qui? C'est mon fils? C'est ma fille? Ce sera peut-être mon neveu? Peut-être pas. Ce sera peut-être quelqu'un de l'atelier. Il faut que tout ça vive et on peut pas être figé là-dedans. Alors, c'est vrai qu'on dit oui, mais alors, quid de la culture familiale? Mais c'est pas parce qu'il y a familial que c'est bien. Je crois pas que ce soit le juste terme. Mais il y a un état d'esprit.
On retrouve un petit. Avec les harmoniques peut-être moins présentes. Donc ça donne un petit peu moins de projection, de lumière, mais c'est assez clair quand même, sans être agressif du tout.
Qu'est-ce que j'avais joué sur le Pleyel?
C'est très sonore, je trouve. Je sais pas si...
Une fois, on avait un très beau Steinway qui était vraiment somptueux, géant, quoi, voilà. Puis un jour, il y a des personnes qui arrivent, elles regardent le piano. Oui, tu vois, pas mal. Ouais. Ah, ouais. Oh. Oui, mais bon, oui, il est pas mal. Faudrait qu'on réfléchisse. Bon, écoutez, on va vous mettre une option sur le piano, si vous voulez. Ça vous engage à rien, vous prenez le temps, vous réfléchissez tranquillement, on vous laisse une semaine, puis après on lève l'option, point barre. Hein. Vous nous passez un petit coup de fil, si vous voulez. Ouais, tu crois Je me dis, j'espère qu'ils ne l'auront pas, j'espère qu'ils ne l'auront pas. 2 jours après, il y a Jacques Higelin qui passe dans le passage. Il se met devant le piano, il fait « Ah, oh, je le veux, je le veux, je le veux !» Il tournait autour, il faisait des prières, il se mettait à genoux devant et tout, un truc de fou. Et puis il avait écrit « réservé ». « Ah mais non, moi je vous le prends, je vous le prends. » Mais il revient le lendemain, il retourne avec, il emmène ses musiciens, et là, et je le veux. Il met un cinéma autour de ce piano incroyable. Donc on les a appelés, on dit « Voilà, on a quelqu'un d'intéressé, on voulait savoir si vous levez l'option du piano. » « Non, 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 on ne va pas le prendre finalement, on lève l'option, très bien. » On rappelle, une heure après, il était là, j'étais le piano, il était bon, d'accord. Et là, franchement, j'étais trop contente.
Là, c'est un... demi-queue, c'est la même taille que le Bösendorfer, c'est les deux mêmes, Steingraber.
Donc, vous n'êtes plus dans le piano de salon. On est déjà dans un piano. Vous allez vous rendre compte tout de suite. Maîtrisez les chevaux.
Ce que j'ai du mal à faire sur le premier, d'ailleurs, le Yamaha, j'étais surpris de jouer cet arpège, voilà, sans trop faire sonner. Vraiment là. Caresser les notes. C'est une...
De ressentir,
voilà, à quel point tout ne tient qu'à un fil. Voilà, il rend tout, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Ouais. Le meilleur comme le pire, évidemment, le meilleur quand c'est bien joué. Bah là, voilà. Là, on est dans le piano, la bête, quoi. Moi, c'est une bête, ça.
J'ai un truc à faire sur de la musique.
Alors là, vous travaillez sur ce piano, en fait.
Je travaille donc sur un Bechstein modèle M, donc un piano à queue. Et je suis en train de poser des étouffoirs. Donc, du coup, ici, là, par exemple, il faut couper la tige. Donc... faut avoir la bonne longueur.
Parce qu'elle est trop longue.
Elle est trop longue, voilà. Donc on va le positionner sur les cordes. Et du coup, il faut couper à peu près ici.
C'est quoi ça?
C'est donc les bascules, ça. Tac. Voilà. Donc là, normalement, on est à peu près à la bonne longueur. Si on la positionne, qu'est-ce que ça donne? Donc on la fait rentrer dans la galerie d'étouffoir et après, dans ce qu'on appelle la bascule, si elle veut bien. Voilà, là on est bon. Donc maintenant, l'étouffoir, il faut le positionner au centre des cordes. Donc là, ça te paraît comment?
Au milieu des trois cordes?
Ouais.
Oh ben ça me paraît parfait.
Donc par exemple, même tu vois... Voilà.
Et là, voilà, nous avons un étouffoir des aigus qui est posé.
Et ces petits bitonios, ça...
Ces petits bitonios s'appellent des chevilles. C'est ce qui tient les cordes et c'est ce qui sert aussi à les accorder.
Et de l'autre côté,
il y a des pointes d'accroche et il y a aussi le chevalet, donc entre les deux. Et le chevalet, c'est ce qui transmet le son à la table d'harmonie. C'est rien, c'est une guerre. C'est les trois petites pointes voilà, qu'il y a ici.
Bonjour, moi aussi je viens essayer un piano. Je vous écoute. Thank you.
on part et de voir où on arrive. Voilà. C'est vraiment ce chemin du début jusqu'à la sortie du piano où là, le client ou le pianiste va jouer et waouh, il est satisfait. Là. Quand le pianiste est satisfait, c'est qu'a priori on a fait notre travail. On évolue, on fait évoluer le piano, on recherche, on dit bah non, sur ce piano-là, ce petit réglage-là, ça va pas, on va modifier et on va chercher et trouver. On espère. Le piano de ce type-là peut, à force d'être joué, peut se dérégler, on peut avoir des parasites sonores et donc. Moi, mon travail, c'est vraiment de supprimer ces parasites pour qu'on ait vraiment le son du piano et pas des bruits parasites qui gêneraient le pianiste jazzman ou le pianiste classique. Il faut mieux être dans le silence. Sur le lieu de concert, il n'est pas dit que j'ai ces conditions-là. Demain, je verrai peut-être le côté mécanique qui va être beaucoup plus dans la sensation et dans le côté digital du piano. C'est vrai que le problème des pianistes est que bah, sur chaque concert, ils ont un piano différent. Ils ne vont pas se promener avec leur piano sur le dos, c'est un petit peu compliqué. Donc, quand on leur donne un piano réglé, harmonisé, accordé, on va dire ils peuvent faire de la musique, hein, c'est pas un problème. Mais je reste rarement au concert des pianos que j'ai accordés. Je vais écouter le piano et je vais pas écouter la musique. On va dire, il y a telle zone du piano, ou il y a tel bruit, ou il y a telle chose. C'est pas très intéressant si on n'écoute pas la musique. Quoi. Une corde étouffée, une corde libérée. Je sais pas si on maîtrise complètement, on sait où on essaye de. Avec le bagage technique et avec nos connaissances, on va faire aboutir forcément le piano. On sait jusqu'où on peut aller, mais après on peut aller encore peut-être plus loin. Et bon, c'est une constante recherche en définitive. Il n'y a pas de. C'est jamais fini. Il faut quelquefois savoir s'arrêter, peut-être pour se laver un petit peu l'esprit et laisser un petit peu décanter le travail. Même le piano peut être parfaitement jouable, parfaitement audible et techniquement impeccable. Et on va revenir peut-être après, un mois après, il aura peut-être joué, il aura été dans des conditions différentes. Et on va avoir une autre perception de ce piano-là. Il aura fait sa vie, nous aussi. Et on va essayer de se retrouver pour redonner encore un petit peu du meilleur de l'instrument. Voilà, c'est un éternel recommencement, on va dire. Pas des parents musiciens. Il y avait quand même un piano à la maison, un vieux piano inaccordable, que je m'amusais à démonter, à remonter, voir ce qui se passait à l'intérieur. Je démontais pour voir ce qu'il y avait dedans. C'était la curiosité de gamin. Et il y a la mécanique, il y a plein de pièces. Et c'est un mécano géant pour un gamin, c'est génial. Et puis voilà, je suis parti embêter quelques accordeurs réparateurs de piano dans ma région, et puis je me suis lancé. On cherche parce que ce sont des instruments qui se dévoilent pas tout seuls. Chaque piano est unique. Voilà, la portée est terminée.
Bon, il y a vraiment celui-là et l'autre. Je sais pas, entre les deux, ça. Mais c'est les deux. C'est sûr, c'est les deux. Furstein.
Gavo, Furstein, Furstein, Gavo, Furstein, pile en face. Furstein, allez, Furstein.
Alors,
où en êtes-vous? Non, mais c'est celui-là, je l'adore, je sais pas, je l'adore.
Ouais, j'ai l'impression parce que vous êtes souvent devant. Hein.
Et puis, oui, j'ai voilà, envie
d'ailleurs de bien vous correspondre, il y a un bon échange avec vous et ce piano. Oui. C'est important. Mais vous avez un piano d'études pour vous faire plaisir, qui a quand même un potentiel, qui a une rondeur, qui a... Voilà, et puis ça vous permet de bien vous remettre au piano et de vous faire plaisir avec un son que vous aimez. Voilà, c'est ça qui compte. Hein. L'important, c'est vous et votre piano.
À vous de jouer. Comme d'habitude, à traiter avec tous les égards dus à son rang. Et il revient ici quand ce piano? Lundi?
T'as vu avec Cyril?
Faut que je vois ça avec Cyril?
On voit ça avec Cyril, hein, c'est dès qu'ils le reprennent au soir, tu te le ramènes le lendemain. Dès qu'il te laisse là où cela, et nous on repassera la chercher.
Allez, je te fais une main. Ton clavier?
Vas-y. Un petit bout.
Pratique pour le point d'un cheval. Hein. Tiens, mais je crois que le plus lourd que j'ai fait, moi, c'est de phase de lit. Il y a 3,08 m. Celui-là, c'est un bon morceau. Là, c'est le cheval avec la calèche. Il y a la bécane à mettre déjà.
La salle des pianos neufs, celle des occasions. La salle des Pleyel, celle des Steingraber. La salle des concerts, Bösendorfer et Yamaha. L'atelier bois, la boutique du haut. Et au milieu de tout ça, l'atelier, le centre, le cœur qui bat.
Piano Nebout, avec Paul et Jacques Nebout, Christophe Nebout, Quentin Cottevel, Vincent Bourlard, Maxime Dodin, Blandine Régnier, Lucas Cottevel, Marin Chouquet, les transporteurs Philippe Écader et Simon Dalmet au piano. Création R, Inès De Bruyne, Irène Omelianenko, équipe technique Mathieu Leroy et Hervé Dubreuil. Réalisation Annabelle Brouard. Un documentaire de Zoé Mémy et Laurence Courtois.
Demain, à 23h sur France Culture, rendez-vous avec Manu Farine, qui nous promet Poésie Beckett et Ludovic Janvier, avec l'acteur Jacques Bonafé, l'écrivain Stéphane Lambert et le poète Jacques Reda. La semaine prochaine, mercredi, le potlatch de Gérard Gartner, par Éric Prémel et Nathalie Battus. Jeudi, Le son qui détruit, par Benoît Bory, Charlotte Rouault et Marie-Laure Ciboulet.